Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, notre musique nous rend-elle sourds et nos grandes peurs. Bonne écoute.
Notre musique nous rend-elle sourds? Un texte de Jean Siag, paru le 29 mai 2023 dans la presse. De plus en plus d'études suggèrent que la musique compressée affecte notre ouïe de manière irréversible, entraînant des problèmes d'acouphènes, d'acousie et de surdité. Les musiciens et artisans de l'industrie musicale sont bien sûr directement touchés par cette affliction, mais la vérité est que personne n'est épargné. La musique et les balados font aujourd'hui partie de notre quotidien. Munis de nos écouteurs, immergés dans l'univers musical ou fictionnel de nos artistes ou de nos auteurs préférés, nous mettons nos oreilles sur la ligne de front. Et ça, c'est sans compter les spectacles ou même les films que nous allons voir. Mais l'écoute prolongée et cumulée de ces sons compressés, conçus pour s'élever au-dessus du bruit ambiant, de plus en plus élevé, a un impact négatif sur nos oreilles, nous disent des experts. Quand on parle de surcompression, on parle d'absence de micropause et de densité sonore extrêmement importante, explique Christian Hugonnet, ingénieur acousticien. Ce n'est pas une simple question de volume, on parle d'un son qui ne redescend jamais, qui reste chargé et qui, à la longue, provoque une rupture du réflexe stapédien. Le réflexe stapédien est un mécanisme de défense qui fait en sorte que les muscles de l'oreille se raidissent lorsqu'ils détectent une source sonore trop forte, empêchant le son d'entrer. On a mené une étude sur des cochons d'Inde qui ont des oreilles à peu près identiques aux nôtres, nous explique Christian Hugonnet. Au bout de 4 heures d'écoute sans pause de « I Miss You » d'Adèle à 102 dB, le niveau d'une boîte de nuit, ils perdaient 50% de leur capacité à déclencher leur réflexe stapédien. Après une semaine, ils étaient toujours à 50% de leur capacité. Donc, on a un vrai problème. Musique et publicité. Le son compressé est apparu dans les années 1960 dans l'industrie musicale, notamment dans le mixage de la guitare et de la batterie, rappelle Christian Hugonnet. Si on avait remonté le niveau de la guitare, on aurait saturé l'enregistrement, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrasé le son de la guitare et on l'a remonté au niveau de la batterie. En clair, la compression permet de réduire l'écart entre les sons plus faibles et les sons plus forts. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme un soufflet en galette et cette galette, on la monte en niveau là où on veut, illustre Christian Hugonnet, qui est aussi le président fondateur de la Semaine du son, parrainée par l'UNESCO. On a commencé avec le mixage des instruments, puis on l'a fait avec le son de la voix, ce qui fait que même si je ne parle pas très fort dans mon téléphone, vous m'entendez très bien. Les publicitaires se sont emparés de la technologie en compressant le son au maximum, mais en augmentant les niveaux sonores, de sorte que même si on se trouve dans une autre pièce, on entend très bien la pub. Avec la dématérialisation de la musique dans les années 2000, le son n'a jamais autant été compressé. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de surcompression. Un son qui ne désamplit pas. L'oreille est soumise à un niveau sonore qui ne désamplit jamais, poursuit Christian Hugonnet. Aujourd'hui, c'est plus facile d'écouter un son compressé parce que finalement, l'oreille n'a plus à travailler. À la longue, ça crée une accoutumance et on a de plus en plus de difficultés à entendre des sons de plus faible niveau, comme le bruit des pas ou d'une feuille qui tombe. Cette paresse auditive entraîne toutes sortes de problèmes de fatigue et de surdité, mais aussi de sifflements et d'acouphènes. L'acouphène est lié à la surcompression, croit Christian Hugonnet, mais il peut être lié à un traumatisme sonore qui touche particulièrement les musiciens et les gens de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on estime que 60% des musiciens ont des acouphènes, c'est-à-dire qu'ils ont des sifflements permanents dans les oreilles. Ce sont les neurones qui sont agressés en permanence et qui fournissent à leur tour un bruit intérieur permanent. L'audiologiste Sylvie Auger confirme ce phénomène. La présidente et fondatrice de la clinique du Centre-Ouest a mis sur pied une clinique pour musiciens afin de répondre à la demande des patients issus du monde musical, musiciens, chanteurs et mélomanes. Vous écoutez « Notre musique nous rend-elle sourds », un texte de Jean Siag, paru le 29 mai 2023 dans la presse. Ce qu'on voit en clinique, ce sont des problèmes de surdité, d'acouphènes, d'hyperacousie, hypersensibilité au bruit, ou de diplacousie, deux tons différents entendus dans chaque oreille à partir du même son, indique Sylvie Auger, audiologiste. Et les cas surviennent chez des gens de plus en plus jeunes, souligne-t-elle. Il y a de plus en plus de jeunes patients. La plupart du temps, ils perdent d'abord l'ouïe des hautes fréquences. Avec tous les dispositifs d'écoute qui existent, c'est une clientèle à risque. Musiciens à risque. Les musiciens en parlent peu, mais ils sont touchés de près par les problèmes d'ouïe. L'auteur-compositeur-interprète Peter a eu une perte auditive neurosensorielle soudaine dans une oreille l'automne dernier. Bien que dans ce cas-ci, la cause soit apparemment d'origine virale, il est sensible à la question, d'autant plus qu'il ne lui reste qu'une bonne oreille. Perdre l'ouïe, c'est quelque chose de traumatisant pour un musicien, nous dit-il. Ça m'a fait perdre confiance pendant un moment, d'autant plus que j'ai maintenant un problème d'acouphène. Même si dans mon cas la musique n'a pas causé ma perte d'audition, je prends des précautions. Il y a plusieurs musiciens dans mon entourage qui ont des problèmes d'ouïe. Mais une fois qu'on le sait, on fait quoi? C'est notre métier, s'inquiète Peter. Peter, qui a vécu en France pendant quelque temps, explique que, dans de nombreuses salles, les consoles sont munies de lecteurs de décibels. Au-delà d'un certain seuil, ça bloque. Je trouve que c'est quand même bien géré en France. On a d'abord le réflexe de se dire que c'est chiant, mais au fond, c'est une question de santé publique. Pour éviter d'être entraîné dans une spirale, les spécialistes s'entendent sur une chose, il faut diminuer le temps d'exposition au son. Il faut aussi, selon M. Hugonnet, qu'il y ait plus de pauses dans la musique. Il faut tendre vers des musiques qui respirent. Dans les années 1960-1970, la compression était encore maîtrisée, mais aujourd'hui, ça ressemble à un gavage d'oie. La musique a perdu ses nuances, même en musique classique. Du repos sonore. Sylvie Auger abonde dans le même sens. On a besoin de repos sonore. Je recommande également aux musiciens d'utiliser des bouchons filtrés par décibels et à ceux qui donnent des spectacles de se servir de moniteurs de scène pour réduire le son qui est projeté de la scène vers la salle pour contrôler l'intensité sonore qui se rend à leurs oreilles. Parce qu'en combinant le son de la salle à la musique jouée sur scène, ça fait beaucoup. L'audiologiste suggère également aux musiciens de porter des bouchons ou des casques anti-bruit entre des performances, par exemple dans un bar ou dans un autobus de tournée, une façon de reposer les oreilles. Aujourd'hui, une personne sur quatre a des problèmes d'audition. On est en train de perdre notre audition. Sur l'île de Pâques, il y a peu ou pas de malentendants. Une personne de 90 ans entend aussi bien qu'une personne de 20 ans. Donc, il faut savoir que c'est notre environnement sonore qui crée cette déficience, dit Christian Hugonnet, ingénieur acousticien. L'équipe de Christian Hugonnet travaille en ce moment sur un label avec Universal, l'Institut de l'audition et l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique, IRCAM, pour définir des critères objectifs de qualité sonore de manière à éviter la compression excessive. Ces travaux devraient être présentés en 2024. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,5 milliard de personnes seraient malentendantes. C'était « Notre musique nous rend-elle sourds », un texte de Jean Siag, paru le 29 mai 2023 dans la presse.
nos grandes peurs, un texte de Laila Maalouf et Véronique Larocque, paru le 28 mai 2023 dans la presse. La fin du monde, les virus, le nucléaire, les catastrophes environnementales, les extraterrestres. Si nous n'avons pas tous les mêmes peurs, certaines d'entre elles ont tendance à être plus répandues que d'autres. Mais qu'est-ce qui conditionne les grandes peurs sociétales? La peur fait partie des émotions humaines fondamentales. À la base, son rôle est de nous protéger contre les dangers. C'est une alarme qui sonne face aux menaces, explique le docteur Camillo Zacchia, psychologue et vice-président de l'organisme Phobie Zéro. Mais on est tous différents, nuance-t-il, et certaines personnes ont des alarmes plus fortes que d'autres, notamment face à ce qu'on qualifie de grande peur sociétale. Si on regarde les grandes peurs sociétales qui concernent la survie de l'espèce humaine, ce qu'on appelle les fins du monde dans l'Académie du catastrophisme, d'habitude, c'est le nucléaire, la pandémie, le religieux, donc une fin du monde qui serait un acte de Dieu, et l'environnement, précise le professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université Concordia, Jean-Philippe Warren. Depuis le Moyen Âge, les grandes peurs évoluent par cycle, explique-t-il. Avec les avancées scientifiques du 19e siècle, des peurs liées à d'importantes catastrophes géologiques découlant de la théorie du catastrophisme sont venues s'ajouter aux peurs véhiculées principalement jusqu'alors par la religion. Et si les cycles des grandes peurs pouvaient s'étirer sur des siècles à l'époque médiévale, ils ont désormais des durées de vie plus courtes qui coïncident avec de grands événements comme la crise de Cuba en 1962 qui marque le point culminant de la peur nucléaire jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Les peurs changent si tu es jeune, vieux, de gauche, de droite. Les gens de droite, par exemple, ont plus peur d'une fin du monde qui serait une espèce de parousie divine. Et de l'autre côté, les gens de gauche ont plus peur d'une catastrophe environnementale, selon Jean-Philippe Warren, professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université Concordia. Aux États-Unis, ajoute-t-il, 2% des gens pensent que la fin du monde va venir des zombies et 1% des extraterrestres. Et si jamais il y avait des signes mystérieux dans le ciel, je suis sûr que ce 1% grossirait. Les grandes peurs seraient ainsi majoritairement conditionnées par les événements, notamment géopolitiques ou liés à l'actualité, mais également sujettes au progrès technologique et au contexte dans lequel on vit. Depuis la pandémie, les sondages montrent qu'environ une personne sur cinq pense que la fin du monde sera causée par un virus, alors qu'elle ne faisait pas partie des peurs il y a une dizaine d'années, avance le professeur. Si on était dans un contexte de guerre comme en Ukraine, nos peurs seraient probablement bien différentes. On ne s'inquiéterait pas trop de l'environnement, souligne de son côté Léonie Lemire-Théberge, psychologue et professeur. J'enseigne au cégep et l'intelligence artificielle, ça nous fait peur. On voit des travaux, on fait des tests nous-mêmes, chat, GPT, ça peut faire la job des étudiants, dit-elle. La peur, vecteur de changement, face à tout ce qui se passe autour de nous, c'est donc notre perception qui va faire en sorte que la peur réussit à avoir une emprise sur nous, perception influencée par notre tempérament, notre génétique, notre éducation. Si j'ai un tempérament anxieux, que j'ai tendance à voir le pire, et qu'il y a des fusillades, je vais probablement me mettre à craindre plus quand mes enfants sortent dehors illustre Léonie Lemire-Théberge. Chez les gens qui avaient déjà peur des maladies, avec la COVID, cette peur est vraiment venue prendre toute la place. La peur, cependant, peut quelquefois devenir un vecteur de changement. C'est ainsi que des groupes ou des gouvernements ont cherché à sensibiliser les populations par rapport à l'environnement en créant une peur face à cet enjeu pour les pousser à agir et changer certaines habitudes qui seraient nocives pour l'environnement, explique Camille Ozakia, psychologue et vice-président de Phobie Zéro. Il y a certaines peurs qu'on utilise parce qu'on veut faire bouger les populations. Par exemple, pour conscientiser les gens au danger de la cigarette, qu'est-ce qu'on fait? On met des avertissements pour augmenter la peur. Si on veut affecter le bien-être de la planète, on doit sensibiliser les gens. La planète est en train de mourir, nous dit le docteur Camille Ozakia. La peur est d'ailleurs souvent utilisée comme une arme dans les gouvernements totalitaires, dans le but de solidariser la population face à un ennemi commun, réel ou non, tout en s'assurant de sa cohésion et de sa fidélité, note Jean-Philippe Warren. Vous écoutez « Nos grandes peurs », un texte de Laila Mahalouf et Véronique Larocque, paru le 28 mai 2023 dans la presse. Parfois, quand on veut mobiliser les gens, que ce soit pour l'environnement ou l'importance de se protéger contre la COVID, on va mettre plus d'importance là-dessus. Mais tout le monde ne va pas recevoir le même message. Des gens vont dire « Ce n'est pas réel, c'est une conspiration. » À l'opposé, on a créé des gens hyper anxieux. Certains deviennent paralysés par ça, sont très inquiets, découragés. J'en connais qui disent « Moi, je ne vais pas avoir d'enfants parce que la planète est en train de se défaire. » Donc, ça pourrait être quand même assez intense chez certains individus, estime le docteur Zakia. Ce qui est intéressant, ajoute-t-il, c'est que pour essayer de faire bouger certaines personnes, on doit envoyer des messages de catastrophe. La COVID a fait sortir beaucoup d'éléments intéressants dans la nature humaine. Comment on appréhende un danger? Comment on le comprend? Il y a des gens qui voyaient ça comme extrêmement menaçant. D'autres qui minimisaient le danger. Eux, ils n'ont rien changé dans leur vie. Six choses qui ont fait frémir l'Occident. De quoi avait-on peur il y a 20 ans, 50 ans, voire 100 ans? Menace réelle ou fruit de l'imaginaire, ces six choses ont suscité l'angoisse en Occident dans les dernières décennies et elles vous font peut-être encore peur aujourd'hui. Panique satanique. Qu'ont en commun les jeux de rôle et le heavy metal? Dans les années 1980, ils ont été associés au satanisme. À l'époque, des gens étaient convaincus qu'à peu près dans toutes les banlieues américaines, il y avait des congrégations sataniques qui se réunissaient et qui faisaient des sacrifices humains, indique Antonio Dominguez Leiva, professeur de l'UQAM, spécialisé en histoire culturelle. Selon lui, le succès qu'a connu le film « Rosemary's Baby » de Roman Polanski, paru en 1968, a certainement contribué à raviver cette peur du diable. Aux États-Unis, des éducateurs en garderie soupçonnés de faire partie de groupes satanistes ont été accusés d'attouchements sexuels sur des enfants. Francis Langlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, dresse un parallèle entre la méfiance envers ces hommes et celle dont on fait l'objet les drag queens dans la dernière année. Ça s'inscrit dans le même genre de tendance. On démonise des catégories de personnes. Et ça, ça vient d'où? D'une forme de fondamentalisme chrétien puritain. Extraterrestre. L'idée qu'il existe une autre forme de vie dans l'univers n'a pas toujours été qualifiée de terrifiante. les extraterrestres sont devenus inquiétants quand il a été question d'enlèvement dans les années 1980, indique Antonio Dominguez Leiva. Des gens ont témoigné avoir été transportés à bord de vaisseaux pour subir des expériences médicales. Ils sont réellement convaincus qu'ils ont été en contact avec ces créatures, poursuit-il. Au début de l'année, le Pentagone a déposé un rapport sur les phénomènes aériens non identifiés, ce qui a continué d'alimenter le débat sur l'existence ou non des extraterrestres. Armes nucléaires. Les images des villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, complètement rasées par l'explosion de deux bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale, ont marqué les esprits. Tout au long de la période de la guerre froide qui a suivi, la menace nucléaire effraie la planète entière. On avait vraiment peur qu'à tout moment, l'URSS ou les États-Unis décident d'attaquer avec une bombe nucléaire et que l'autre riposte. C'était la peur de la fin du monde, rappelle l'historienne et enseignante à la Villa Sainte-Marceline, Sophie Doucet. La guerre en Ukraine et la hausse des tensions entre la Russie et les États-Unis ont fait renaître cette peur. Pourtant, la menace nucléaire n'était jamais disparue, souligne Francis Langlois. Personne n'est totalement conscient qu'il y a encore beaucoup d'armes nucléaires et qu'elles sont nettement plus puissantes que celles utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Clown maléfique. Ils sont censés provoquer la joie et le rire, mais en 2016, ils ont semé la panique aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, notamment. Tout à coup, il y avait des gens qui se sont mis à voir des clowns inquiétants dans leur jardin, dans le bois ou sur la route, raconte Antonio Dominguez Leiva, auteur d'un livre abordant cette grande peur clownesque. Parfois filmés, ces incidents ont fait l'objet de reportages dans les médias, comme ce fut aussi le cas dans les années 1980 et 1990. Les nombreux films d'horreur mettant en scène des clowns maléfiques, dont Halloween de John Carpenter, puis It de Stephen King, ont contribué à nourrir cette crainte. Mais au-delà de la fiction, un personnage bien réel a également alimenté cette peur des clowns, John Wayne Gacy, tueur en série américain qui a enlevé la vie à au moins 33 jeunes hommes dans les années 1970. Il a été surnommé par la presse le clown tueur, puisqu'il se déguisait ainsi pour faire du bénévolat dans les hôpitaux. Terrorisme. Les attentats du 11 septembre 2001 ont totalement changé la peur du terrorisme aux États-Unis, bien entendu, mais aussi ailleurs dans le monde. Si avant 2001, on l'associait à une menace interne, comme ce fut le cas en 1995, lorsqu'un groupe d'extrême droite a fait exploser un bâtiment fédéral à Oklahoma City, l'effondrement des tours jumelles a modifié cette vision. Avec le 11 septembre, le terrorisme, c'est devenu la peur de l'islamisme. On a ethnicisé le terrorisme, note Francis Langlois, membre associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. La peur que ça se reproduise a rendu beaucoup de gens méfiants par rapport à une catégorie de la population qu'on associait à ces événements-là. La peur alimente le racisme, l'intolérance, ajoute l'historienne Sophie Doucet. Encore aujourd'hui, on ressent les effets de cette peur de l'autre, pensent les deux experts. Virus. Absente des pensées de nombreux Québécois il y a 4 ans à peine, la peur des virus est revenue en force en 2020, merci à une certaine maladie nommée COVID-19. Or, la crainte des pandémies s'observe par vagues depuis la fin du 19e siècle avance Antonio Dominguez Leiva. À cette époque, il y avait une paranoïa autour de la découverte des microbes et de la médecine microbienne. La crainte que des groupes anarchistes utilisent des virus contre une portion de la population était réelle au tournant du XXe siècle. Cette peur du bioterrorisme est également réapparue pendant les guerres mondiales, la guerre froide et même tout récemment. Ça demeure l'hypothèse de beaucoup de gens sur l'origine de la COVID-19, souligne le professeur de l'UQAM. C'était « Nos grandes peurs », un texte de Laila Malouf et Véronique Larocque, paru le 28 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Justine Langevin, Hélène Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.